En Exode 34 se trouve un des passages les plus célèbres de l'Ancien Testament. C'est ce que les Juifs appellent les 13 attributs de la miséricorde divine, puisque Dieu se présente lui-même au moment de redonner pour la deuxième fois les tables de la loi à Moïse sous un aspect assez agréable, un Dieu riche en bonté, en douceur, en fidélité, qui pardonne, etc. Oui, on aime ce passage. Ce Dieu qui a compassion, ce Dieu qui fait grâce, ce Dieu lent à la colère, plein de bonté, plein de fidélité, qui garde sa bonté jusqu'à 1000 générations. Oui, c'est le Dieu que l'on aime. C'est le Dieu que l'on veut entendre prêcher le dimanche. Un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, un Dieu de bonté, de pardon, de fidélité, de douceur. C'est ce Dieu dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi ce passage est tellement apprécié. Mais pourtant, il y a une ombre au tableau. C'est que ce beau passage finit quand même assez désagréablement. En effet, il se termine en disant « Et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils jusqu'à la troisième ou quatrième génération. » Il faut bien dire que ce morceau de verset gâche quelque peu le plaisir que l'on peut avoir à lire ce passage. Alors qu'en faire ? Qu'en faire ? La solution la plus simple est celle que je recommanderais volontiers aux amateurs de la Bible, c'est la suivante. C'est de mettre ce genre de passage, comme il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament, sur le compte d'une théologie vétérotestamentaire et archaïque. En effet, nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a parfois l'expression d'un Dieu vengeur, d'un Dieu pas toujours gentil, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui même peut faire du mal, voire tuer. Et on sait que c'est comme ça. Alors, nous, lecteurs du Nouveau Testament, nous disons, bon, eh bien, ce sont les traces d'une théologie antique, mais nous, justement, nous ne relevons pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau. Par conséquent, nous savons, nous, que Dieu n'est que source d'amour, de bonté, de justice, de douceur et de pardon, et que c'était en quelque sorte une erreur, parce que la révélation n'avait pas encore été complète, et par conséquent, il ne faut pas tenir compte de ce genre de passages lorsque l'on les rencontre dans l'Ancien Testament. C'est la manière la plus simple, effectivement, de s'en sortir. Et je crois que le lecteur de l'Ancien Testament ne doit pas forcément vouloir tout prendre. Il faut se promener dans l'Ancien Testament, voire dans l'ensemble de la Bible, je dirais comme une abeille qui veut faire son miel. Si elle voit une belle fleur, elle va y prendre le bon nectar dont elle a besoin. Et si elle passe à côté d'une mauvaise fleur ou d'une crotte de chien, elle ne s'y arrête pas. Eh bien, le lecteur de la Bible doit faire pareil. Il doit se nourrir de tout le bon nectar qui s'y trouve, et Dieu sait s'il y en a. Et s'il y a un passage qui vous embête, ne vous y arrêtez pas. Passez votre chemin. Ça fonctionne très bien, mais pour un professionnel comme moi, ça n'est pas tout à fait satisfaisant, je vous l'avoue. Et donc, on peut avoir envie de trouver une solution moins brutale. Cette solution que j'ai cherchée longuement, je l'ai trouvée avec le point de départ suivant. C'est que je vous l'ai dit, pour les Juifs, ce passage est appelé les 13 attributs de la miséricorde divine. Or, pour les Juifs, donc, ce dernier petite expression que je vous ai dite trouver désagréable fait partie des 13 attributs de la miséricorde divine. On comprend que la bonté, la fidélité, lent à la colère, tout ça, ce soit des expressions de la miséricorde, de l'amour et de la bonté de Dieu. Or, pour les Juifs, même ce dernier point, ce Dieu qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-enfants jusqu'à troisième ou quatrième génération, c'est considéré comme l'un des attributs de la miséricorde divine. Autrement dit, c'est vu comme une manifestation de son amour. Est-ce possible ? Est-ce possible? En un sens, je pourrais dire oui. Et même avec des ressources provenant du Nouveau Testament. Quand nous disons « qui aime bien châtie bien », on ne sait pas souvent que, en fait, c'est une sorte de proverbe biblique. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 19, c'est exprimé de la façon suivante. « Moi, dit Dieu, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Alors donc, y aurait-il la possibilité qu'il y ait en Dieu quelque chose qui soit précisément de l'ordre, je dirais, de la colère, du châtiment ou de la punition? Oui, nous n'aimons pas trop cela. Mais néanmoins, peut-être est-il bon, enfin je ne sais pas, je me prêche un peu à moi-même parce que je n'en suis pas entièrement convaincu, mais réfléchissons, peut-être est-il bon qu'il y ait quand même en Dieu quelque chose qui soit de l'ordre de la réaction contre le mal. Si Dieu n'était que bonté, douceur, si Dieu disait toujours oui, amen à tout, si Dieu n'était que gentillesse, si Dieu n'avait qu'une sorte d'indifférence par rapport au mal, pourrait-il être vraiment un Dieu actif, efficace et, je dirais, efficient dans ce monde? Si Dieu vraiment se fichait de tout, si pour Dieu le mal n'avait aucune importance, pourrait-il encore être Dieu? Avons-nous besoin, effectivement, d'une sorte de Dieu, je dirais, édredon, un Dieu oreillé, le Dieu qui est, oui, la petite maman qui console le bébé quand il pleure? C'est très beau ça, on en a besoin. Mais n'y a-t-il pas la nécessité, à un moment donné, d'un Dieu vigoureux et d'un Dieu qui dise « Mais attention, ça ne va pas là ce que tu fais, il y a du mal intolérable. Attention, le mal, la mort, la violence, ça n'est pas possible. » Comment pouvons-nous croire même dans un Dieu qui consentirait à tout et à n'importe quoi? Il voit Hitler, les camps de concentration, et Dieu dit « Mais c'est très bien, je vous aime, je pardonne, je suis lent à la colère, j'accepte tout, je tolère tout. » Est-ce que vraiment on peut jusqu'au bout croire dans un Dieu pareil? Eh bien, je ne pense pas. Je crois qu'à un moment donné, il y a la nécessité qu'il y ait un Dieu avec une certaine force et qui dise les limites du possible et qui dise justement « Là, ça n'est pas possible. Il y a un bien et il y a un mal. » Et autrement dit, oui, je pense qu'il faut peut-être avoir une certaine idée que Dieu peut punir, que Dieu peut gronder, que Dieu peut être en colère. Sinon, son amour et son pardon ne veulent plus rien dire du tout. Et j'aime bien effectivement ce passage, peut-être plus compréhensible pour nous. L'un des 13 attributs encore. Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est assez beau, compréhensible. Oui, il est vrai, la base même du pardon n'est pas de faire comme si le mal n'existait pas. La base même du pardon n'est pas l'indifférence par rapport au mal, mais c'est d'aller au-delà du mal. Et donc, à un moment donné, de prendre en considération le mal. Et ce Dieu qui est le nôtre, oui, il nous aime et il nous pardonne, mais aussi il nous éduque. Et aussi, comme le fait n'importe quel parent, eh bien peut-être parfois peut-il nous maltraiter en quelque sorte, par amour ou pour notre bien. Un parent qui dirait toujours oui, 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 amen à un enfant, un parent qui voudrait ne jamais contrarier son enfant, l'aimerait-il correctement? Bien sûr que non. Alors, où se trouve en Dieu, je dirais, cette dimension éducatrice du fidèle? Il faut la chercher. Et je vous laisse ça comme méditation personnelle parce que je ne veux pas m'enfoncer plus avant là-dedans. Je dis simplement que peut-être il faut la chercher et peut-être que la prédication moderne de l'Évangile nous pousse finalement à un Dieu dont on se détourne parce que justement il devient inefficace et sans, je dirais, sans aucune capacité d'action. Peut-être que justement le fait que Dieu puisse punir donne toute sa force à son amour. Peut-être le fait que Dieu puisse condamner ou être en colère, justement c'est, je dirais, le point d'appui du levier de son amour et de son pardon. Le pardon de Dieu est grand, parce qu'il pourrait punir. Et l'amour de Dieu est grand parce qu'il aurait de bonnes raisons de nous rejeter. Mais bon, je ne veux pas vous terroriser plus que cela et simplement vous montrer qu'il faut remettre les choses à leur place. Le texte nous dit que Dieu pardonne jusqu'à 1000 générations et qu'il garde sa rancune sur 3 ou 4. Bon, 3 ou 4 de dureté sur 1000 de bonté, ça fait en Dieu 3 pour 1000 de colère et 997 pour 1000 de bonté. Bon, ça, je crois que c'est un bon ratio, si vous voulez. Donc oui, je devrais prêcher 997 fois sur l'amour et le pardon de Dieu et seulement 3 fois sur 1000 évoquer la possibilité de la colère et de la punition de Dieu. Je ne sais plus comment j'ai fait de prédication dans ma vie. Je ne crois pas en avoir fait encore 1000. Donc, vous êtes tranquille pour encore 20 ou 30 ans. Je n'en parlerai plus si je suis fidèle à l'Écriture. Mais néanmoins, voilà, il faut garder cette petite idée quelque part. Cela dit, ça n'explique quand même pas tout. Parce que j'ai beau essayer de me faire l'avocat, si ce n'est du diable au moins de ce texte, il y a quand même quelque chose de choquant là-dedans. C'est ce que Dieu punisse le coupable. On peut le comprendre, que Dieu ait de la colère, on peut le comprendre. Mais pourquoi ce texte nous dit-il qu'il punit les enfants et les enfants des enfants jusqu'à 3 ou 4 générations? Là, ça devient beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, parce que les enfants et les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils y peuvent, les pauvres? Et pourquoi Dieu viendrait-il, je dirais, accabler quelqu'un qui est évidemment innocent d'un mal qu'il n'a pas pu faire, mais qui a été fait par des générations au-dessus? Là encore, on peut s'en sortir, mais un bon théologien s'en sort toujours. Et donc, on peut s'en sortir. La solution la plus simple, eh bien, c'est un peu la même que tout à l'heure. Et de dire, vestige de théologie archaïque. Mais cette fois-ci, pas pour l'écarter. Pas pour s'en débarrasser comme ça et pour passer le verset. Plutôt pour essayer de mieux la comprendre. Et là, je crois que c'est assez vrai. Pour mieux la comprendre et pour la transposer dans un autre système théologique, qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de l'Évangile. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. C'est qu'autrefois, dans les anciens temps de l'Ancien Testament, on avait tendance à attribuer à Dieu tout ce qui arrive, le bien comme le mal, la pluie comme le beau temps, la vie comme la mort. Et Dieu était une sorte de puissance omnipotente et dont on pensait que tout ce qui arrive est nécessairement l'effet de sa volonté. Aujourd'hui, notre système théologique est différent, et nous avons l'idée que Dieu n'est que source de bien, et que par conséquent, quand il arrive du mal, eh bien c'est autre chose, c'est le cours du monde, si vous voulez. Aujourd'hui, quand un enfant meurt, on dit « c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le monde qui ne marche pas très bien ». Mais nous ne disons pas « Dieu a tué cet enfant ». Enfin, peu de gens le disent en tout cas. Et ainsi, il faut transposer et se dire que quand on dit que Dieu, je dirais, punit de génération en génération sur les enfants et les petits-enfants, il ne faut pas croire que ce serait Dieu qui ferait une sorte de mal volontaire pour aller accabler les enfants et les petits-enfants, mais pour dire « c'est comme ça, c'est une réalité qui existe ». C'est une réalité incontournable avec laquelle il faut faire affaire. On a la même chose dans toute l'histoire d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis, ancienne théologie, c'est de dire Dieu n'est pas content et il les punit en les mettant dehors. Théologie moderne, c'est de dire Adam et Ève se privent eux-mêmes des bienfaits de la présence de Dieu et c'est eux-mêmes qui, finalement, s'éloigne du paradis. De même, quand l'Ancien Testament dit « Dieu punit Adam en lui disant « à partir de maintenant, tu travailleras à la douleur, à la sueur de ton front », notre interprétation, c'est de dire « ce n'est pas Dieu qui condamne Adam à souffrir, c'est Adam qui, par son propre égoïsme et par le fait qu'il perd la notion de service, s'impose à lui-même le fait que son propre travail devienne pour lui souffrance. De même, Dieu dit, puisque c'est comme ça à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Je ne crois pas que Dieu s'amuse à punir Ève par la douleur de l'enfantement, mais c'est que si la femme est dans son égoïsme pur, alors pour elle, l'enfantement devient douleur. Si au contraire, elle se sort d'elle-même pour ne penser qu'à son enfant, l'enfantement devient joie. Et par conséquent, dans ces prétendues punitions de Dieu, nous ne voyons pas une action volontaire de Dieu pour faire souffrir, mais l'expression d'une conséquence inéluctable du péché, en quelque sorte. Bon. Or là, c'est vrai. C'est vrai, et il est bon de rappeler que notre mal peut avoir des conséquences sur les autres. Et il est vrai en particulier que les enfants sont les premiers à pâtir des péchés de leurs parents. Et donc ce n'est pas une punition de Dieu, c'est un fait. Et peut-être qu'il est bon et essentiel et vital de prendre conscience de cette réalité. C'est qu'effectivement, Dieu pardonne, Dieu accepte, Dieu élan à la colère, riche en bonté, en miséricorde, mais il n'empêche que vos péchés à vous, c'est vos enfants qui en payent le prix. Ça, c'est vrai, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. C'est une vérité absolue. Je dirais, c'est la vérité du bon Dieu. C'est peut-être pas lui qui l'a voulu, mais c'est comme ça. Donc je pense que c'est vrai. Et du coup, ce petit passage, oui, pas très agréable, c'est vrai, mais néanmoins, il ne faut pas le mettre de côté, parce qu'il nous rappelle que oui, Dieu pardonne, mais qu'il ne faut pas pour autant se contenter du pardon de Dieu. Il faut se rappeler que nous sommes aussi responsables de nos actes. Et nous devons nous rappeler que le pardon de Dieu, s'il est efficace, et je le crois, il ne suffit pas pour autant à effacer les conséquences néfastes de nos égarements. Et il faut aussi garder cela en tête. Donc oui, il est bien de déculpabiliser, effectivement. Il est essentiel d'annoncer la grâce et le pardon. Mais en même temps, il faut quand même aussi inciter à faire attention à ce que l'on fait. Dieu peut effacer la culpabilité de nos actes, mais il ne peut pas en effacer les conséquences sur les autres. Ça, c'est vrai. C'est particulièrement important pour les protestants. Parce que les protestants, ils disent, on est sauvé par grâce. Et on leur reproche parfois la chose suivante en disant, bon, c'est un peu facile, vous êtes sauvé par grâce, donc voilà, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais néanmoins, non, justement. Parce que oui, certainement, nous sommes sauvés par grâce, certainement, nous sommes pardonnés. Mais il y a aussi, je crois, dans la prédication de la Réforme, une incitation très forte à ce que l'on appelle la responsabilité. Nous sommes aussi responsables des autres. Et l'annonce de la grâce n'est pas un message de déresponsabilisation. C'est un message de déculpabilisation. C'est très différent. Et je pense qu'il faut effectivement garder les deux. De la même manière que ce Dieu trop bon de tout à l'heure est inefficace, si nous ne croyons en nous que au pardon, que à la bonté, etc., alors tout se dissout dans notre existence. Et à ce moment-là, oui, faisons n'importe quoi puisque Dieu nous pardonne, puisqu'on est dans la grâce. Mais non, bien sûr, il n'en est pas ainsi. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas en menaçant les gens qu'on les fait avancer. Ce n'est pas par la crainte, par la terreur, par l'annonce d'un jugement ou d'une condamnation que l'on va convertir le cœur de l'homme à l'amour, à la bonté, à la justice, à la grandeur et à toutes ces choses-là. Pour se convertir, il faut être aimé, il faut être pardonné, il faut être libre. Je crois même que pour faire le bien, il faut se sentir aimé, se sentir pardonné et se sentir libéré. C'est pourquoi je pense qu'il faut, vous voyez, garder toutes ces choses un petit peu en tension. À la fois, il y a, et c'est la première chose et la plus essentielle, il y a le pardon de Dieu. Oui, vous êtes pardonné. Combien de parents n'ai-je pas vu vivre dans une sorte de sentiment de culpabilité par rapport à ce que pourraient faire leurs propres enfants. En se disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, comme j'ai dû mal faire, j'ai dû pas faire bien, etc. Mais ça n'est pas la question. Vous êtes pardonné. Vous êtes libéré de ce que vous avez fait. Mais maintenant, sachez quand même que votre attitude aujourd'hui a des conséquences sur les autres. Donc, libre, joyeux et pardonné, essayez de trouver comment vous pouvez, lutter contre le mal dont vous avez pu, vous, être la cause, ou dont vous pouvez l'être encore. Donc oui, Dieu nous aime et nous pardonne, mais nous devons montrer que, si ce n'est sur soi, il peut y avoir des conséquences sur les autres, et qu'il faut savoir, il faut le savoir, pour envisager de réagir par rapport à cela. Bon, cela dit, une fois de plus, le texte n'est pas trop culpabilisant. Il y a un attribut sur 13 qui nous rappelle cette chose un peu pénible, 1 sur 13. Donc voilà, 13 fois amour, 13 fois bonté, 13 fois grâce, 13 fois pardon, et un petit au passant, attention quand même, hein. Ne faites pas n'importe quoi, parce que vous avez une responsabilité dans ce monde. Et même 1 sur 1000, vous disais-je, mais c'est à savoir. Il faut garder dans sa tête quelque chose de cet ordre-là. Le judaïsme est particulièrement sensible à cette chose-là. Vous savez que dans le judaïsme, à la fête de Kippour, la fête du grand pardon, oui, on annonce le pardon de Dieu, mais je crois qu'il est demandé à chaque juif d'essayer d'obtenir le pardon de la personne qui l'aurait offensé. Ça, c'est très bien ça. C'est bien beau de dire « Dieu te pardonne », mais celui à qui j'ai fait du mal, est-ce que lui, il me pardonne ? Eh bien, le judaïsme dit, attention, tant que ton frère ne t'a pas pardonné, eh bien, je ne sais pas si le pardon de Dieu sera possible. L'Évangile inverse les choses, et il dit, le pardon de Dieu de toute façon est premier. Donc, de toute façon, Dieu te pardonne. Mais maintenant que Dieu t'a pardonné, essaye de voir si par hasard tu ne pourrais pas obtenir, toi, le pardon de celui que tu as offensé. Et de même, maintenant que Dieu t'a pardonné, dans quelle mesure est-ce que toi, tu ne serais pas capable, à ton tour, de pardonner à celui qui t'a offensé? Mais alors, où se trouve Dieu là-dedans? Parce que si c'est effectivement un attribut de la miséricorde divine, là encore, je n'ai pas entièrement justifié le texte. J'ai dit, oui, c'est vrai, il y a des conséquences de nos actes, mais est-ce vraiment un attribut de la miséricorde divine que cette espèce de poids qui est trimballé de génération en génération? Si ce n'est pas Dieu qui punit, est-ce que vraiment il nous laisse simplement nous débrouiller tout seuls avec cette responsabilité écrasante? Eh bien non, pas tout à fait. Et là encore, j'ai repris mon texte. Je l'ai relu, repris, rescruté, réétudié, réanalysé. Et j'ai découvert, mais c'est parce que je suis passionné par les langues anciennes, que ce mot « punir », Dieu qui punit les enfants et les enfants des enfants, le mot « punir », eh bien, n'est que l'héritage de 2000 ans de christianisme culpabilisateur. Et qu'effectivement, le texte ne dit pas « punir ». Pour les hébraïsants, le verbe qui est utilisé là, c'est « pakad ». Et « pakad », ça ne veut pas dire « punir », en fait. Ça veut dire « visiter ». Dieu qui nous visite, comme dans le Magnificat. L'Éternel qui visite son peuple. Et donc « visiter », c'est « aller voir ». Alors c'est vrai que le sens « punir » peut en dériver, parce que c'est « visiter » dans le sens éventuellement du surveillant. Le surveillant qui vient voir et qui voit quand même ce qui ne va pas, si vous voulez, en quelque sorte, et qui éventuellement peut être amené à punir. Je ne dis pas que pakad ne veut jamais dire punir, mais globalement, son sens premier, ce n'est pas punir, c'est visiter. Et là, ça me semble extrêmement beau, parce que visiter, ça n'est pas punir, c'est accompagner. Et donc, je crois qu'il y a justement dans ce texte même pas une théologie vétuste et je ne sais plus ce que je vous disais de désagréable, mais il y a une théologie extraordinaire de dire oui, il y a effectivement des fautes qui parfois rejaillissent sur les autres, mais Dieu n'est pas absent de cela, non pas qu'il punisse, mais dans le sens qu'il nous accompagne dans cette chose-là. Et dans cette responsabilité que nous avons, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés à cette charge, à ce poids qui nous est laissé. Mais il y a un Dieu qui nous accompagne et qui vient visiter les lieux mêmes de notre responsabilité. C'est un mot très fort et par exemple, il est utilisé en Exode 4, 31. Justement, le peuple, juste après cet épisode, il est perdu dans le désert. Et on dit, il est écrit cela, « Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Eh bien là, la même expression est traduite par nos traducteurs par « visiter ». Parce qu'il est évident que ce Dieu qui voit la souffrance du peuple, qui voit sa misère, sa famine, ce peuple perdu dans le désert, il ne vient pas le punir, il vient le visiter. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent. Donc oui, je crois que c'est comme ça, moi, que je veux entendre ce passage. Il n'y a aucun mal là-dedans. Et les Juifs ont raison, ce 13e attribut est bien un attribut de la miséricorde divine. Et ce n'est même pas ce Dieu qui nous aimerait parce que qui aime bien châtie bien. Ce n'est pas ce Dieu de nos cantiques, louanges et prières, je n'ai pas voulu vous le faire chanter ce matin, qui disent « que tu es juste en punissant ». Mais quelle horreur! Dieu n'est pas juste en punissant, Dieu ne punit pas, voilà, c'est tout. Il visite, il accompagne. Et quand il voit quelqu'un qui fait du mal, il sait que le pécheur, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est malade. Et quand Dieu voit un de ses enfants qui fait du mal, il souffre lui-même. Et il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui a besoin d'être aidé, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, besoin d'être visité. Quelqu'un d'heureux, quelqu'un de libre, quelqu'un de plein de grâce, de joie, de bonté, peut-il faire du mal? Non. Je crois que le péché n'est que l'expression, je dirais, de la maladie de l'être humain. Et c'est pourquoi Dieu ne punit pas, mais c'est pourquoi il accompagne, il aide, il visite. Donc oui, il nous accompagne, il nous visite comme il visite les enfants d'Israël dans leur souffrance. Il est vrai que le péché des parents peut faire souffrir les enfants, mais Dieu ne les laisse pas seuls. Dieu ne laisse seuls ni les parents ni les enfants. Il les visite pour leur venir en aide et certainement pas pour les accabler davantage. De même, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, disais-je. Mais c'est justement qu'il ne se fiche pas du fait que le coupable ait fauté. Et s'il s'en préoccupe, c'est pour pouvoir l'aider, c'est pour pouvoir le faire progresser. C'est peut-être aussi pour l'inciter à se prendre en charge, oui c'est vrai. L'amour, le pardon de Dieu sont essentiels. Ils n'effacent pas la faute du péché, je l'ai dit. Mais un pécheur a besoin effectivement de s'en sortir, pour s'en sortir, d'être aidé par Dieu. Dans le concret, il en est de même. Il y a dans notre société des gens qui sont en prison. Il y a des violeurs, des assassins, des drogués, des alcooliques, tout ce que vous voulez. Il ne suffit pas d'aller leur dire « C'est bon, Dieu vous pardonne, Dieu s'en fiche complètement, vous soyez alcoolique, drogué, assassin, violeur, ça n'a aucune importance, Dieu vous aime, Dieu vous pardonne. » Ça ne suffit pas. Il faut aussi voir en face leurs problèmes. « Dieu te pardonne, c'est vrai, parce que je sais que la vie est difficile. Tu as fait tout ce que tu as pu, mon frère. Et ce n'est pas Dieu qui va rajouter de la culpabilité à ton problème. Bon, maintenant que tu es libéré et pardonné, on va essayer de voir ensemble ce que l'on peut faire. » C'est ça la pédagogie de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés aussi, je crois. Il faut voir en face le problème pour aider à guérir ou pour aider ceux qui font du mal aux autres à cesser de faire du mal aux autres. De même pour nous, le pardon, la grâce sont essentiels. Ils ne dispensent pas de tout faire pour agir mieux ou pour nous soigner même psychologiquement. Si nos névroses commencent à empêcher de vivre ou à faire souffrir notre entourage. Oui, il ne suffit pas de croire dans l'amour et le pardon de Dieu. Nous avons à mettre en œuvre des moyens, je dirais, techniques, humains, pour essayer d'éviter de faire souffrir les autres. Bon. Heureusement, Dieu, c'est encore un des attributs, est lent à la colère. Il nous laisse le temps, pas de problème. Mais ce qui est dit, c'est que bien que le coupable ne soit pas pris pour innocent, Dieu visite les fils et les fils des fils. C'est une vraie source d'espérance. Il y a du bonheur à reconstruire, il y a tant de choses à restaurer, parfois une estime de soi à retrouver, une espérance, une foi à faire grandir, une façon de voir, et Dieu peut t'aider à reconstruire tout ça. Et le point d'articulation de tout ça, la manière avec laquelle Dieu s'y prend, le lien entre la bonté et la responsabilité, ce sont, je crois, les trois premiers attributs. Et là aussi, il y a un grand mystère. Vous essayerez de compter en prenant votre Bible, c'est très difficile de trouver 13 attributs. Les trois premiers attributs, c'est les choses suivantes. L'éternel, premier attribut. L'éternel, deuxième attribut, puisque le mot est répété. Dieu, troisième attribut. De bonté, quatrième. Pourquoi les Juifs ont-ils pensé que ces trois expressions du nom de Dieu étaient trois expressions de sa propre bonté? Eh bien, je crois que justement, c'est important. Parce que l'Éternel, c'est le nom propre de Dieu dans la Bible. C'est le nom donné à Moïse au buisson ardent. C'est le Dieu qui libère d'Égypte et c'est le Dieu qui donne la loi. Quant au mot Dieu tout seul, elle, c'est le nom général de la divinité. Je crois en effet que Dieu est actif en soi et que le premier effet de la bonté de Dieu, c'est Dieu. Dieu est bon en soi. Chercher Dieu, justement, c'est quelque chose qui nous aide à grandir. Chercher Dieu, ce n'est pas une morale ou un discours. Chercher Dieu, c'est chercher l'autre, chercher le spirituel, chercher l'invisible. C'est chercher de mettre autre chose dans sa vie que le concret, que l'utilitarisme, que l'intérêt, que le pouvoir, que le profit, etc. Chercher Dieu, chercher le divin, le spirituel, c'est avoir une source, effectivement, de non-égoïsme dans sa vie, chercher quelque chose qui nous dépasse, se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi, et rien que ça, ça transforme une vie. Quant à l'Éternel, Yahvé, ce tétragramme, le Dieu de la Bible, c'est celui qui nous libère, qui nous donne la loi, c'est ce Dieu relationnel, ce Dieu de l'Ancien Testament que nous sommes invités à rechercher dans la prière. Il faut, ce n'est pas évident, mais il faut le rechercher. Et c'est lui, je crois, qui peut nous dire son amour, sa tendresse et son pardon. C'est lui qui peut nous aider à grandir. C'est lui qui peut nous apprendre à aimer, à pardonner, à nous impliquer dans le monde, avec un mélange de liberté, de joie, de déculpabilisation et en même temps de responsabilité et d'action. C'est lui, c'est ce Dieu même qui peut nous accompagner dans nos actes, qui peut féconder nos actions, parce qu'il ne nous laisse pas seuls avec le poids de nos fautes. Et pourtant, il est là à nos côtés pour nous inciter à tout faire concrètement, pour limiter les conséquences de nos fautes, et pour mettre dans toutes nos tentatives d'action dans ce monde, forcément maladroite, sa puissance de vie. Il est ce Dieu qui aime, qui pardonne, plein de bonté, plein de fidélité, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui le visite et qui l'accompagne jusqu'à ses enfants, ses petits-enfants, et qui donne sa bonté jusqu'à 1000 générations. Amen.